Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. J'ai appris ce matin que vous attendiez un discours en anglais, mais puisque j'ai fait mes études de français ici à Rennes, je ne vais pas vous épargner le fardeau de m'écouter en français. Ce fut environ 1968, l'année même de mes études à Rennes, lorsque l'écrivain russe Andrei Amerik s'est posé la question, est-ce que l'Union soviétique restera intacte jusqu'en 1984? L'idée d'Amérique fut approximativement celle de la biophysique. Que les plus grandes entreprises, soit politiques, ou économiques, ou biologiques, sont de nature les plus fragiles. Elles tiennent mal les augmentations trop rapides des coûts de ressources, ni les changements abrupts des circonstances extérieures. À la même époque, dans un essai magistérial au sujet de la guerre nucléaire, l'écrivain américain Jonathan Schell exprima l'obverse de cette idée en caractérisant les conséquences écologiques. Une république des insectes et de la pelouse. Les grandes organisations ont l'avantage de l'efficacité. Quand les ressources coûtent peu, elles ont tous les avantages de la concurrence et de la compétitivité, soit militaire, soit économique, et des économies d'échelle et des réseaux. Mais elles ont aussi le défi de la régulation interne. Les plus grandes et les plus diverses sont aussi les plus vulnérables. Les maisons divisées ne tiennent pas, selon les mots de Abraham Lincoln en 1858. Il y a 150 ans, l'année même de la publication du Capital de Karl Marx, le monde était divisé en quatre empires principaux. Les empires mondiaux de la Grande-Bretagne et de la France, et les empires internes de la Russie et des États-Unis. Bien sûr, les deux empires les plus grands et les plus divers n'existent plus. Celles de la Russie s'agrandirent à la création de l'Union soviétique en 1917, il y a 100 ans, et encore en 1945. Maintenant, elle s'est réduite à la Russie même. Celle des États-Unis est telle qu'elle était juridiquement, approximativement en 1865, mais avec une pénombre mondiale depuis 1945, qui se fragilise de jour en jour. Et maintenant, il y a aussi la Chine et l'Europe. La dissolution des empires fait fonction d'une augmentation des coûts de ressources, y compris le prix militaire qu'il faut payer pour maintenir l'ordre, ce prix étant en partie fonction de l'état de la technologie militaire qui, depuis 70 ans, favorise fortement la défense et donc les indigènes par rapport aux étrangers. le maintien de l'Empire par les moyens militaires n'est plus proposition économique. C'est la leçon de l'Indochine, de l'Algérie, de l'Irak, du Vietnam, de l'Afghanistan. Mais à part les empires militaires, il y a aussi les empires économiques, dont la règle est plus ou moins la suivante. Si les ressources sont abondantes, la périphérie dépend du centre. Et si les ressources deviennent chères, le centre dépend de la périphérie. Et cette dernière a tendance à se détacher. Alors, une proposition très simple, mais où en sommes-nous? L'empire la plus fragile est sûrement l'américaine. Cette pénombre dont j'ai parlé, qui ne va certainement pas durer longtemps. Et dont les signes de la dissolution et de la désespération sont un peu partout. Au Proche-Orient, en Amérique latine, sur les frontières navales de la Chine, je dirais même hier à Varsovie. Les empires internes de la Chine, de la Russie, sont, je crois, assez solides. Leurs frontières sont assez faciles à défendre. Les ressources qui leur sont nécessaires sont plus ou moins internes dans la proximité. Les problèmes sont plutôt des problèmes d'administration et de l'environnement, certainement, mais non du maintien de l'hégémonie, à part quelques petites provinces telles que la Tchétchénie ou en Chine, le Tibet. Et l'Europe. J'y arrive. Mais je veux d'abord parler un peu de cet empire interne des États-Unis. Un empire politique, mais aussi un empire économique, où nous avons pour le moment une abondance des ressources temporaires. À cause d'une boule pétrolière, c'est-à-dire le gaz des schistes et tout ça, mais disponible seulement à partir d'un certain prix. La situation est donc compliquée. Mais la politique intérieure aux États-Unis a néanmoins tendance à se résoudre sur cet axe. C'est-à-dire entre un centre globalisateur qui favorise l'hégémonie de la finance et des ressources facilement obtenues de l'extérieur. Ce centre qui se trouve un peu ironiquement sur les deux côtes. Y compris les ressources obtenues de l'extérieur, y compris les biens de consommation en provenance de la Chine et d'autres pays, et une périphérie intérieure qui favorise une politique des ressources chères, y compris les salaires de main d'œuvre, mais qui n'a pas contrôlé la politique nationale depuis des décennies. Le parti de la globalisation du dollar fort, c'est le parti démocrate. Le parti de l'intérieur, c'est curieusement les républicains. Et en particulier, c'est cette à cette fraction des républicains qui est représentée par le président actuel, M. Trump. Une fraction qui s'étonne en ce moment de se voir à la Maison Blanche. Les élections de 2016 ont démontré une division de classe aux États-Unis qui s'aligne avec cette division entre centre et périphérie. Le Parti démocrate consiste d'une alliance entre une classe professionnelle dominante, représentée dans les couloirs du capital par une petite élite administrative et politique qui se perpétuait, et d'autre part, les communautés de couleur, les immigrés, les noirs, qui se maintient en marge de l'économie. Alors, c'est ces deux communautés extrêmement différentes qui, dans leur ensemble, fait le Parti démocrate, et quand ils font ensemble la majorité des électeurs dans les différents États, ce sont ces deux communautés qui lui donnent les États qui ont voté pour Hillary Clinton. Le Parti républicain dominé par les oligarques se base néanmoins sur la classe moyenne, principalement les blancs, qui se trouvent majoritaires au sud, sur les plaines, maintenant de plus en plus dans les États anciennement industrieux de la Middle West. La campagne électorale de 2016 consistait en large mesure d'une révolte contre le gouvernement des classes professionnelles, y compris bien sûr les économistes. Cela se voit très clairement par le choix de personnel de la nouvelle équipe administrative, un refus total de l'expertise de l'aide professionnelle, un gouvernement direct des lobbies et des oligarques. Alors, venons un peu à l'Europe. Puisque l'Europe est en grande mesure une confédération des anciennes métropoles, elle fonctionne comme un centre par rapport au reste du monde, mais sa prospérité dépend d'une abondance de ressources à bon marché, et donc sa stagnation date du début des années 70. Il y a eu 45 ans au moins de difficultés à cet égard. J'ai intitulé mon avant-dernier livre sur les questions économiques en anglais « End of Normal », la fin de la normalité. Mon éditeur au Seuil m'a dit que ça ne marcherait pas en France, parce que pour les Français, on n'a pas eu des conditions normales depuis 40 ans. Alors, c'était alors en français la grande crise. Et c'est de cette situation que l'on a parlé. Mais à l'intérieur de l'Europe, il y a, comme aux États-Unis, aussi un centre et une périphérie. Et les deux sont liés par l'intégration économique et surtout par les liaisons financières. À Berlin, tout comme à New York, il y a préférence pour une monnaie forte et les prix stables. À Athènes, tout comme à Détroit, on a besoin d'une augmentation des salaires, une réduction des dettes, si c'était possible, de l'inflation pour alléger le fardeau de la dette, de la banqueroute pour réduire les obligations non payables. Mais à toutes ces remèdes, les créanciers disent non. Et pourquoi? La raison est assez évidente. Tout au contraire de la situation américaine, la géométrie de la politique européenne s'est arrangée pour exclure les endettés qui sont à travers les frontières nationales. Les communautés noires et hispaniques et les pauvres en général en Amérique du Nord peuvent plus ou moins voter pour la plupart. C'est pas forcément facile. C'est peut-être malgré les efforts des racistes dans les élections locales surtout de les empêcher d'exercer ce droit. Mais ils ont le droit constitutionnel. Mais les Grecs et les Espagnols, les Portugais, n'ont aucun droit de participation dans les élections, dans l'élection de la chancelière allemande. Que le résultat soit d'une politique des huissiers ne devrait étonner personne. Mais c'est ça qui est arrivé surtout en ce moment en Grèce. Il y a 2 ans, j'ai eu un engagement intime avec le ministère de la Finance en Grèce au moment du printemps d'Athènes, d'où j'ai vu de très proche cette politique des huissiers, l'augmentation des impôts, surtout le TVA, réduction des salaires, chômage chez le service public, privatisation de tous les biens publics rentables, les autres en service, destruction de l'économie privée, des petites entreprises indépendantes. L'appauvrissement d'un peuple entier au service des créanciers. Et aussi, il faut dire, la prostitution des économistes et des institutions internationales financières au service des prognostications illusoires. Il fallait se poser la question. Est-ce que l'Europe peut se sauver? Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Et aussi la question, s'il n'y a pas une révolte européenne contre cette manière de traiter d'un pays partenaire en Europe, est-ce que l'Europe a le droit moral de s'en sortir? Avec le référendum sur le Brexit et les élections françaises, il y a provisoirement 2 réponses différentes. Les Anglais ont choisi d'abandonner le projet européen Les Français ont évidemment trouvé ce choix-là indigestible, étant donné les alternatives. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont contents d'être gouvernés par Berlin et sous le diktat de M. Schäuble. Beaucoup dépend donc de la détermination et de la capacité des voix de la démocratie et de la société juste en France, et aussi, je veux dire, aussi en Italie. Là, vous avez un pays avec la capacité de mobilisation politique contre un gouvernement qui ne fonctionne plus sous des principes de justice ni de rentabilité économique à long terme. Et la question de l'avenir de l'Europe reste bien sûr, pour le moment, sans réponse définitive. Cette question, bien sûr, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. J'ai mon propre pays avec certaines difficultés particulières. Je vous laisse quand même avec la suggestion qu'il y a des moyens d'analyse que l'on peut poursuivre en parallèle avec une perspective historique qui nous permet de comprendre que ces problèmes ne sont pas nouvelles et que notre difficulté, les difficultés du système capitaliste et financier international et qui nous encourage de trouver une nouvelle voie, de nous dire qu'une nouvelle voie, une voie différente, doit être possible. Une voie qui nous mène à la poursuite des solutions pragmatiques, qui soient basées sur une nouvelle vague de démocratisation qui nous donne, pour finir, notre seule occasion pour l'espoir. Alors, je vous remercie beaucoup de cette présence.